L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Mardi 24 mars, Julie Delpech, députée Renaissance de la première circonscription de la Sarthe, organisait une réunion publique à la salle Pierre Perret au Mans. Elle avait invité comme intervenante sa collègue Laure Miller, députée de la Marne, qui porte une proposition de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et interdire les portables au lycée, comme ils le sont déjà au collège. La proposition de loi adoptée en première lecture à l'Assemblée doit passer au Sénat la semaine prochaine. L'objectif de cette réunion, c'était d'informer les citoyens, mais aussi de recueillir leurs témoignages concernant l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes. Plusieurs professeurs étaient dans la salle, on les entendra tout à l'heure. Tout d'abord, nous avons pu nous entretenir avec les deux députés. Laure Miller nous explique l'enjeu de cette proposition de loi.
Notre axe, c'était le sujet de la santé publique même générale, donc physique et mentale. On voit bien les effets que peuvent avoir les réseaux sociaux sur la santé des jeunes. Maintenant, il y a de plus en plus d'études qui convergent sur ce sujet. Même le rapport de l'ANSES qui a été rendu à la fin de l'année dernière démontre qu'il y a un vrai sujet et un vrai enjeu de santé mentale pour notre jeunesse. Et donc, la question, c'est de savoir si on continue comme ça ou si on essaie de prendre des mesures pour protéger les plus vulnérables.
Pourquoi l'interdiction, c'est la solution privilégiée par Renaissance ?
Alors, vous savez, le cadre qui concerne le numérique de manière générale, c'est un cadre européen. Donc, c'est le droit de l'Union européenne qui s'impose. On a pour ce faire un règlement européen qui existe, qui est le Digital Services Act, le DSA, qui a été mis en place par Thierry Breton lorsqu'il était commissaire européen, merci. Et donc ce règlement européen, c'était déjà une bonne avancée puisqu'il permettait de réglementer, réguler, en tout cas d'essayer de réguler les réseaux sociaux, sauf qu'on voit bien quelques années après qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont absolument pas régulés comme ils devraient l'être, comme que ce soit par leurs algorithmes qui sont extrêmement enfermants, par leur modération qui est très insatisfaisante. Et donc la seule solution, qui est peut-être pas la meilleure, hein, mais qui est la seule solution aujourd'hui qui s'offre à nous si on veut essayer de protéger les jeunes efficacement, c'est la solution de l'interdiction.
Même si cette proposition de loi concerne seulement les mineurs et les lycéens, la problématique que posent les réseaux sociaux est une problématique globale, jusque dans la sphère familiale.
La proposition de loi a la vocation à protéger les plus vulnérables, mais en vérité, on doit tous se questionner sur la façon dont on utilise les réseaux sociaux. Et on s'est dit, en tout cas à travers cette proposition de loi, que c'était important de poser une règle dans la société, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'en effet, c'est la mission des parents d'encadrer cet usage pour les enfants. Mais en fait, on est face à des grandes plateformes multinationales, américaines pour la plupart, aussi chinoises, qui ont payé des millions de dollars en l'occurrence pour prendre des psychiatres, des neurologues et pour construire un mécanisme qui est extrêmement redoutable, qui arrive à capter notre attention de façon extrêmement performante. Aujourd'hui, on le sait, notamment avec le fameux scroll que tout le monde fait et que tout le monde pratique et qui a pour objectif de nous rendre complètement addicts. Donc, est-ce qu'on veut une société finalement sans cette règle-là, sans cet interdit, où finalement on va être tous à essayer de se restreindre, mais face à des choses extrêmement puissantes et qui ont vocation à nous faire perdre notre capacité d'attention, ou est-ce qu'on pose des règles pour vraiment faire aussi de la sensibilisation? C'est une interdiction, certes, mais moi je croise beaucoup de parents, et je pense que Julie aussi, qui disent merci en fait, parce que ça va nous aider aussi dans le dialogue qu'on a avec nos ados à la maison. Avec cette règle, on peut leur dire c'est pas nous, c'est une règle qui a été posée, qui est fondée sur de la santé, sur des questions de santé publique, et donc les jeunes vont peut-être plus facilement comprendre pourquoi ils sont encadrés de cette façon-là.
Mais alors, ces grandes plateformes américaines, chinoises, comment est-ce qu'on peut les forcer à mettre en place un dispositif de vérification de l'âge, et quelles sanctions est-ce qu'on peut leur infliger en fait ?
Alors ça, c'est le droit de l'Union européenne qui va s'appliquer. C'est-à-dire qu'on a le droit de poser cet interdit, de poser cette limite dans le droit français, mais ensuite c'est l'Union européenne, la Commission européenne, qui va devoir vérifier que les plateformes ont bien mis en place cette vérification d'âge. Donc elles vont devoir le faire à partir du mois de septembre si la loi est finalement appliquée et si la loi est finalement votée dans un premier temps. Et ensuite, les sanctions, elles sont principalement des sanctions financières. C'est prévu dans le cadre du Digital Services Act, le DSA, le règlement européen.
Concrètement, sur le plan pratique, c'est quand même difficile à mettre en place.
Alors non, c'est pas difficile à mettre en place. Là, pour le coup, toutes les plateformes vous le diront, techniquement, elles peuvent le faire en fait. C'est qu'elles n'ont pas la...
Oui, non, mais je veux dire pour faire en sorte qu'elles soient contraintes de le faire.
Bah, écoutez, là, elles seront scrutées par beaucoup de monde, par la population, puisqu'on en a beaucoup entendu parler, par les autres pays de l'Union européenne, parce que beaucoup sont déjà en pointe pour reprendre la loi française et l'appliquer dans leur propre pays. On a le Portugal, l'Espagne, l'Allemagne, la Suède, la Norvège. Donc, on a beaucoup de pays qui sont derrière nous et qui sont dans la même attente. Et donc, tout le monde va les... Enfin, c'est le l'opinion publique aussi qui va pouvoir observer ce que font les plateformes. Si elles ne le font pas, la Commission européenne sera là pour les sanctionner. Et la sanction ultime, c'est quand même de les bannir du continent et de l'Union européenne. Donc, je pense quand même qu'il y a une prise de conscience aussi des plateformes qui doivent se dire, voilà, on ne va pas pouvoir reculer longtemps.
L'autre enjeu crucial concernant les réseaux sociaux, c'est l'accès à une information fiable.
Il y a un vrai sujet d'accès à l'information, et ce n'est pas à vous que je vais le dire, et d'accès à une bonne information, une information vérifiée. Aujourd'hui, je pense que nos compatriotes n'ont pas forcément conscience que lorsqu'ils lisent un journal, lorsqu'ils regardent la télévision, lorsqu'ils écoutent la radio, évidemment que l'information, elle est vérifiée, que c'est des journalistes derrière et qu'ils ont une vision assez objective, ou en tout cas, ils savent qui est derrière. Si on lit Libération, si on lit Le Figaro, on sait exactement que l'information est peut-être un peu orientée, mais on le sait. Quand on est sur les réseaux sociaux, et maintenant de plus en plus de gens s'informent uniquement sur les réseaux sociaux, il n'y a pas en effet le mécanisme de l'ARCOM, il n'y a pas de mécanisme de régulation, et donc l'information n'est ni vérifiée, et on ne sait pas de quelle façon elle est orientée. Et elle est forcément orientée, et les algorithmes l'orientent. Donc il y a un vrai enjeu derrière qui va au-delà de cette proposition de loi, mais qui est d'ouvrir les yeux à tout le monde, au grand public, et surtout de protéger peut-être nous davantage nos médias, nos vrais médias, entre guillemets, contre les réseaux sociaux. On a des échéances électorales qui arrive bientôt, et aujourd'hui ça n'est pas le cas. Et non, je dis donc ce que je veux en conclusion, la régulation aujourd'hui elle est très complexe parce qu'elle n'est pas française, elle est européenne, et aujourd'hui ça n'est pas le cas.
Justement, très précisément sur cette question de l'information, pendant la commission d'enquête justement sur les risques liés aux réseaux sociaux, Hugo Décrypte a été auditionné. Donc, Hugo Décrypte, un vidéaste qui fait des vidéos d'actualité quotidiennement et qui est principalement écouté par des jeunes. Et son avis, c'est que sur cette question de l'information, l'interdiction des réseaux sociaux ne va pas changer grand-chose et que les jeunes vont se déplacer vers d'autres plateformes peut-être encore moins fiables. Et surtout, le fait que la désinformation n'existe pas seulement sur les réseaux sociaux, mais aussi sur certains médias, et on pense particulièrement à la sphère Bolloré qui est largement épinglée pour de nombreuses désinformations quasi quotidiennes. Donc son avis à lui, c'était que l'interdiction des réseaux sociaux dans le cas des fausses informations, c'est déplacer le problème. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi je crois pas en fait, et en effet Hugo Décrypte fait partie des comptes qui sont suivis par les jeunes, et c'est très bien, mais Hugo Décrypte il est aussi sur YouTube, et demain les jeunes pourront toujours aller regarder les vidéos de Hugo Décrypte sur YouTube. Il a aussi sorti des livres, donc en fait je pense qu'il faut pas avoir une vision trop resserrée de... Là, c'est l'existant, voilà, et donc on peut critiquer l'existant, mais demain, si cette interdiction elle voit le jour, il y aura d'autres façons et des médias pourront se déporter sur d'autres voyez, sur d'autres sites internet. On n'interdit pas l'accès à internet aux jeunes, bien évidemment, on interdit juste l'accès aux réseaux sociaux. Et vous parlez de Bolloré et de la sphère Bolloré, mais les gens quand ils vont sur CNews aujourd'hui savent quand même où ils vont. Enfin, je veux dire, on voit, alors peut-être pas, mais en tout cas, on peut l'identifier assez clairement.
Le complément d'enquête qui est sorti sur CNews montre quand même le contraire.
D'accord, mais il y a aussi l'ARCOM et ils sont régulièrement sanctionnés, vous le savez, et il y a d'autres chaînes qui étaient de cette sphère-là qui ont été sanctionnées et qui n'existent plus aujourd'hui. C'était C8. Si je ne me trompe pas. Donc il y a quand même une régulation.
CNews pour le coup existe toujours, alors que ça fait un moment que...
Ils sont sanctionnés et ils savent qu'ils sont sur un fil. Et moi je crois quand même, et après c'est à nous notre mission aussi de le dire, mais je crois quand même qu'on sait à peu près voilà, que ce n'est pas une chaîne neutre. Mais en effet, il y a un vrai sujet, mais il y a une régulation, c'est ça que je veux vous dire. Les algorithmes poussent à la radicalisation et donc en fait on a l'impression d'être informés, mais on est tous dans un monde qui n'est pas celui de notre voisin, et on a ce mécanisme de biais de confirmation qui fait qu'on ne nous donne que ce qu'on a envie de voir. Ça nous, entre guillemets, radicalise dans notre opinion politique, dans notre opinion publique. Et en fait, ça fait que les gens ne vont plus se parler, les gens ne comprennent plus et n'ont plus envie de comprendre l'opinion de la personne en face. Et je pense que c'est pas la société qu'on veut. Donc je n'ai pas la solution, mais je crois qu'il est nécessaire, à mon avis, et sain d'avoir ce débat, je ne sais pas si c'est maintenant, mais avant les élections. On voit ce qui s'est passé en Roumanie et il ne faudrait pas revivre la même chose. Et je pense que ça doit tous nous mobiliser au-delà des étiquettes politiques qui peuvent être les nôtres.
Mais alors justement, parmi les dispositions qui ont été supprimé dans le vote de la loi à l'Assemblée, l'obligation d'information sur les risques liés à l'usage des réseaux sociaux. Comment se passer dans un objectif de lutte contre les dangers des réseaux sociaux, comment est-ce qu'on se passe de cet aspect pédagogique et de sensibilisation?
Alors en fait, c'est tout simple, hein. Et pour le coup, c'est un mécanisme politique, de politique parlementaire, c'est-à-dire qu'on a, nous, un temps limité pour passer des propositions de loi, vous le savez, lorsque ça se passe dans des niches parlementaires, c'était le cas cette fois-ci, et en fait, le risque était grand de ne pas avoir le temps du tout d'examiner cette proposition de loi, et on savait aussi tous qu'en parallèle, il y avait une proposition de loi au Sénat qui portait sur cette question de la sensibilisation. Et donc, l'idée, c'était de finalement se répartir les rôles, d'avoir cette loi, cette proposition de loi qui portait principalement sur l'interdiction, et de pouvoir porter une proposition de loi du Sénat qui va arriver à l'Assemblée dans les mois qui viennent, pour avoir cet équilibre entre notre propre action à l'Assemblée et celle du Sénat. Donc, elle n'a pas disparu, si vous voulez. Elle est dans une proposition qui a déjà été votée au Sénat et qui arrivera à l'Assemblée nationale. C'était une manière de se compléter.
Julie Delpech nous explique pourquoi elle a tenu à organiser une réunion sur ce sujet en Sarthe.
Alors, vous pouvez constater que je ne suis pas de ceux qui font des réunions publiques tous les 4 matins. Je le fais quand je pense que le sujet est extrêmement important. Je l'ai fait sur le sujet de la santé. Aujourd'hui, je le fais sur le sujet des réseaux sociaux, notamment pour les jeunes, parce que moi, je suis très mobilisée sur les sujets de harcèlement, et notamment de harcèlement scolaire. Et ce qu'on a pu voir dans les établissements, alors il y avait quelques établissements pilotes en Sarthe, mais dans la généralisation de l'interdiction de portable dans les collèges, c'est qu'il y a une augmentation des résultats scolaires et il y a une diminution des cas de harcèlement. Et je crois beaucoup que ce qu'on a pu faire dans cette proposition de loi de Laure Miller à l'Assemblée nationale sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 15 ans, au-delà de la santé mentale, on aura aussi un effet bénéfique sur les résultats scolaires, sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Voilà, moi je crois vraiment que c'est un chemin vertueux et que c'est légitime d'en parler ce soir avec la population, parce que c'est finalement eux qui sont concernés, nous toutes. Alors, mon fils a 2 ans, il est un peu petit, mais je serai à un moment donné aussi concernée. Et dans les gens inscrits ce soir, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pédiatres, et je trouve que c'est intéressant aussi que les professionnels de santé s'intéressent, viennent débattre. Et comme disait Laure, le chemin de cette PPL n'est pas terminé puisqu'elle va commencer au Sénat, donc elle est encore amenée à évoluer. Donc il est encore temps pour nous d'échanger avec les citoyens pour prendre leurs avis et continuer d'enrichir cette proposition de loi avant la CMP.
Et avec les jeunes notamment, qu'est-ce qu'ils en pensent? Vous avez pu discuter avec eux?
Moi, je vais beaucoup dans les écoles. Je fais entre 3 et 4 classes par mois, tout niveau, entre primaire, collège, lycée. Primaire, ils n'ont pas trop la notion, donc voilà. Collège, lycée, c'est assez intéressant. Il y a de tout. Il y a des enfants qui ne comprennent pas et on aurait dû mettre 13 ans. Voilà, ils sont beaucoup sur la notion d'âge. C'est pas tant l'interdiction, c'est plutôt la notion d'âge. Mais en fait, quand on en parle dans les classes, moi, je trouve ça toujours intéressant d'en parler avec eux. Ils comprennent finalement qu'il y a un danger. Par contre, leur cerveau n'est pas assez mûr pour anticiper ce danger et se rendre compte qu'ils sont enfermés des fois dans des algorithmes extrêmement dangereux et radicalisants, comme disait Laure. Et en fait, finalement, je pense que d'avoir mis aussi ce sujet dans l'opinion publique grâce à la PPL, grâce à la commission d'enquête aussi, c'était permettre aux gens de se poser la question. Et c'est un peu pour ça, moi, ce que j'ai mis sur les réseaux sociaux pour donner envie aux gens de venir ce soir, c'est « Ok, les réseaux sociaux, ça nous inquiète, mais on fait quoi ?» Bah nous, on va expliquer ce qu'on fait à l'Assemblée, mais on va aussi prendre l'avis des gens. Il y a certainement des parents qui ont mis des choses en place chez eux. Mais en tout cas, moi, quand j'en parle aux jeunes, je ne les sens pas fermés sur l'interdiction. Ils sont plutôt en train de négocier l'âge.
C'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, mais moins de 15 ans, c'est jeune, en fait. La plupart des moins de 15 ans utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui.
Ah oui. Maintenant, l'âge moyen d'inscription, c'est 8 ans et demi. Donc, vous voyez, c'est quand même de plus en plus jeune, un accès de plus en plus jeune et un temps passé de plus en plus long chaque jour. Donc, d'où la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, en fait, avec ça, parce que ça ne va pas aller en diminuant. Au contraire, on va avoir des jeunes qui vont être sur les réseaux de plus en plus jeunes et qui vont y passer de plus en plus de temps chaque jour. Donc, il y a un vrai enjeu pour demain. Et vous savez, il y a une commission générale qui a été demandée par le président Macron, qui a rendu son rapport en avril 2024. C'était Servane Mouton, qui est neurologue, et Amine Benyamina, pédopsychiatre et spécialiste des sujets d'addiction. Et dans leur rapport, il y avait cette idée de fixer un âge limite pour l'accès aux écrans, de ne pas d'avoir une interdiction absolue d'accès aux écrans avant 3 ans et fortement déconseillée avant 6 ans. Et je pense que ça doit irriguer toutes nos politiques publiques, notamment de santé, pour que ça puisse atteindre vraiment tous les parents. Tout le monde ne le sait pas encore, et des parents peuvent, sans penser au danger, donner bien volontiers un iPad ou un téléphone à leur enfant très jeune, en pensant que ça va les occuper, que ça va leur apprendre des choses. Et on sait maintenant l'impact vraiment, vraiment dangereux sur le cerveau des enfants, sur leur développement cognitif, le développement de la parole. Et c'est même les instits qui nous le disent maintenant. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai croisé plusieurs qui voient la différence dans un enfant qui arrive à la maternelle entre quelqu'un qui a passé des heures sur un écran et quelqu'un qui ne l'a pas fait. Donc, je crois qu'il y a vraiment, pour le coup, beaucoup, beaucoup de sensibilisation à faire, assez massive. Et on a beaucoup de marge de manœuvre.
Pendant la réunion, qui accueillait une petite cinquantaine de personnes, les échanges échanges ont été nombreux. Des parents sont intervenus, comme Violaine. Elle fait un constat étonnant. Malgré l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux, les jeunes ne savent pas utiliser le numérique.
C'est assez paradoxal. Les enfants peuvent passer énormément de temps devant un écran, devant Netflix, devant les jeux vidéo, devant les réseaux sociaux. Mais lorsqu'il s'agit d'utiliser les outils numériques tels que nous les connaissions dans les années 2000, c'est-à-dire des logiciels simples comme Word, Excel, ils ne sont pas accompagnés dans l'apprentissage de ces outils qui peuvent être utiles plus tard. Donc c'est assez surprenant, mais c'est un paradoxe qui existe aujourd'hui actuellement.
Vous avez constaté par exemple des collégiens qui ne savent pas utiliser Word, qui est un traitement de texte assez simple quand même.
Alors, je n'ai pas fait d'études auprès des collégiens, mais juste dans ma vie personnelle, j'ai sollicité, enfin mon fils m'a sollicité, il est en 6e, donc il a 11 ans, pour écrire un mail, et je me suis aperçue qu'il ne connaissait pas du tout les règles de base numériques pour écrire un mail ou même utiliser Word.
Par exemple, qu'est-ce qu'il ne savait pas faire ?
Il ne savait pas mettre de majuscules, il ne savait pas sauter une ligne. C'était une découverte, chaque clic qu'il fallait faire, envoyer le mail, il n'avait pas du tout été accompagné par le système scolaire.
Vous avez reçu un SMS de votre fille pendant la réunion, qu'est-ce qu'elle vous disait ?
Effectivement, ma fille de 14 ans est actuellement en voyage scolaire sur Rome et donc elle a un contrôle parental assez strict au quotidien qui est de l'ordre d'une heure par jour et aucun accès à un réseau social quel qu'il soit. Et au contact des collégiens et lorsqu'ils font énormément d'heures de quart, finalement, elle nous sollicite parce que la majeure partie de ses camarades sont sur leur téléphone pour faire des stories sur Instagram. Donc elle était assez frustrée et elle nous demandait de manière immédiate à ouvrir un compte Instagram, ce qui actuellement n'est toujours pas le cas.
Cette exigence sociale d'intégrer les réseaux sociaux, c'est aussi ce dont témoigne un jeune de 21 ans dans le public.
Un problème qui, entre guillemets, pas m'effraie sur cette loi, mais qui m'interroge, c'est que, quand j'étais en 4e, c'était il y a plusieurs années, mais je m'en souviendrai toujours, j'avais une amie qui me disait « Bah écoute, on a voulu t'ajouter au groupe de classe sur Instagram, mais t'as pas Instagram. » Je fais « Bah, ah non, j'ai pas Instagram et tout. » Et du coup, bah, on m'a ajouté sur Instagram, et c'est là que j'ai commencé à parler avec des gens, et plus avec mes amis en dehors des cours. Et quand je suis monté de classe, 3e, seconde, les gens qui avaient pas de réseaux sociaux, qui avaient pas Instagram justement, bah ça nous paraissait bizarre, parce qu'on se disait « Bon, on peut pas leur parler... en dehors, et même eux, enfin, je me souviens d'un ami qui avait son téléphone, je crois, au milieu de première, m'avait dit « j'aimerais bien vous parler en dehors des cours, mais moi j'ai pas de réseaux sociaux, ma maman elle veut pas, etc. » Donc déjà pour moi ça pose un petit problème, en tout cas pour les étudiants, les collégiens et lycéens qui se disent « bah je vais perdre un peu de sociabilité avec mes amis, les gens que je rencontre au quotidien. » Alors certes on peut se voir en dehors des cours, etc., mais c'est plus compliqué.
Aujourd'hui, ses cousines reproduisent les mêmes schémas.
J'ai deux cousines. J'en ai une qui a 17 ans et l'autre, elle a 7 ans. Donc, il y en a une qui est au lycée. Elle passe sa vie sur son téléphone. Depuis qu'elle est au collège, elle passe sa vie sur son téléphone. C'est comme j'ai dit, j'avais une cousine de 17 ans et j'en ai une cousine de 7 ans. Donc, elle est en CE1. Et ça m'a effrayé. C'est tout récent, je crois que c'était il y a une ou deux semaines. Un jour, elle vient me voir et elle me fait... Romain, j'ai tous mes copains, ils me parlent d'une tendance à la mode sur TikTok, mais ça veut dire quoi, etc. Et je me suis dit, mais elle est en CE1, elle n'est pas censée, enfin, ses copains ne sont pas censés être au courant de choses à la mode, etc. Et je sais même qu'elle savait qu'il était à Deslaurens. Elle ne sait pas ce qu'il fait dans la vie concrètement,
mais
elle en a entendu parler. Donc ça m'a choqué.
Rappelons qu'Adé Laurent est un influenceur et performeur pornographique auditionné pendant la commission d'enquête sur les réseaux sociaux en juin 2025. Plusieurs professeurs sont intervenus pendant la réunion. Pierre est enseignant au collège. Il est interrompu au début de sa prise de parole.
D'abord, déverrouillez votre écran.
Vous voyez.
Voilà, on a préparé l'exemple.
Il témoigne de sa difficulté à appliquer l'interdiction du portable au collège.
J'aime bien que les établissements scolaires aient une autonomie, c'est un principe auquel moi je tiens particulièrement. Mais là, en l'occurrence, je pense qu'il faudrait que ce soit un dispositif national. Ouais. Parce que, en fait, quand même, plus les enfants, les adolescents ont un cadre commun, collectif, moins ils voient ça comme une injustice. Ouais. Et là, en fait, le téléphone, c'est vraiment une extension d'eux. Moi, je me suis déjà fait agresser parce que j'ai confisqué un téléphone. Ouais. Alors, ça va, on s'en sort, c'est des collégiens. Mais, enfin... Ça arrive, vous voyez ce que je veux dire ? Ça arrive souvent.
D'autant qu'il n'est pas possible d'avoir une surveillance constante.
On sait qu'il y a des points faibles dans l'établissement où on n'a aucun contrôle sur l'usage des téléphones portables. Ça peut être les vestiaires au sport, où ça peut être extrêmement compliqué. On a eu des faits graves parfois, où des photos sont prises alors que des jeunes sont en sous-vêtements. Ça peut être aussi, par exemple, dans les toilettes, où là, on ne va pas aller les fliquer, aller voir un petit peu ce qu'ils font, ça c'est compliqué.
Pour Laure Miller, même si l'interdiction du portable au lycée et des réseaux sociaux pour les mineurs n'est pas une solution miracle, elle reste un pas en avant qui suscite l'intérêt des autres pays.
Et sachez qu'il y a beaucoup de pays qui regardent et qui interrogent, alors moi j'en ai pas eu beaucoup, mais la ministre du numérique, j'en ai vu le Canada, qui nous a demandé un peu, qui a souhaité en savoir plus, la Roumanie qui a subi des difficultés lors de son précédent scrutin est venue nous voir à l'Assemblée pour savoir comment était écrite la loi, et je sais que la ministre du numérique a vu énormément de pays. Et notamment, elle était dans un sommet en Inde il n'y a pas longtemps sur l'intelligence artificielle, et elle m'a dit qu'elle avait été assaillie par des ministres d'autres pays dans le monde qui venaient la voir sur ce sujet-là en disant expliquez-nous exactement la rédaction qui a été la vôtre, comment ça s'est fait, comment s'est passé le débat public, parce qu'on est intéressé par mettre en place cette disposition. Donc ça veut dire quand même qu'il y a un sujet de préoccupation assez mondial, et puis je trouve que c'est plutôt positif que tout le monde s'intéresse à ça.
La proposition sera examinée par le Sénat la semaine prochaine et devra ensuite passer par une commission mixte paritaire. Le chemin est donc encore long. Prochaine cible du président Macron et de son parti Renaissance, les jeux vidéo.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.